Et nous en sommes à la face B de la cassette, tout près de terminer ce deuxième chapitre. Et nous voulons parler d'un autre groupe de gens qui sont incapables de bien saisir, accueillir et croire en tout ce renouveau, nouveau, continu d'ordre spirituel, qui s'amorce de tous côtés, et en Église et dans le monde, à l'heure actuelle. Il s'agit de toutes ces personnes qui mènent une vie pastorale, religieuse, épiscopale, apostolique, hyper active, à la course, et sont, veut pas, facilement surmenées, sous tension et à bout de souffle. Toute la question du changement de style en Église, de la mission du Père, de la fin des temps, des messages et prophéties annonçant le retour imminent de Jésus en son corps glorieux, etc., sont des thèmes majeurs, exceptionnels, qui exigent beaucoup de temps de réflexion et de discernement spirituel, au cœur d'une vie particulièrement calme et sereine, consacrée à l'écoute et à l'adoration du Seigneur. Il est donc impossible d'y voir clair et juste en filant au pas de course, au gré des rumeurs, au simple flair et hasard, comme hélas beaucoup d'hommes et de femmes d'Église tentent, hélas, de le faire présentement. Et nous passons dans cette deuxième partie au chapitre 3, intitulé « Notre attitude à leur égard doit demeurer patiente, exemplaire et interpellante. » Mes frères et mes sœurs, comme je ne cesse de le dire et redire, on n'est pas plus fin que les autres, plus intelligent ou plus saint, par le fait qu'on est appelé à l'une ou l'autre des grandes missions prophétiques proclamées ici ou là à travers le monde depuis quelques années en particulier. L'humanité, comme depuis toujours, depuis qu'elle existe, continue à comprendre deux groupes principaux, les fidèles à Dieu et les infidèles à Dieu. Et Dieu seul a la vérité, est le vrai juge parfait et juste, non seulement de cette fidélité ou de cette infidélité, mais également des degrés précis, des causes exactes et donc de notre vraie responsabilité morale dans cette infidélité ou cette fidélité envers lui. Parmi les fidèles, Dieu demeure tout à fait libre d'appeler qui il veut à telle ou telle vocation ou mission. Il est entièrement libre de donner à qui il veut les lumières et les forces d'entendre, de comprendre et d'apprendre. On peut être très priant, très fervent, très saint, bref, très, très fidèle, et n'avoir pas été choisi, jusqu'à ce jour du moins, pour tel ou tel appel, telle ou telle mission, telle ou telle forme d'évangélisation. Donc, soyons archi-prudents dans nos interprétations. Parmi ceux et celles qui ne comprennent pas la mission du Père, ou les trois proclamations prophétiques de 1992-92, le Big Bang spirituel, la quatrième interpellation aux archevêques et évêques, et l'interpellation ou le message sur Jean-Paul II, il y a tout autant d'excellents fidèles au Seigneur que d'infidèles au Seigneur, qui ne comprennent pas. Évidemment, et on le comprend aisément, il y a une nette différence cependant dans les réactions des fidèles et celles des infidèles au Seigneur. Habituellement, celles des fidèles Leur réaction demeure sereine, charitable, disponible. Celles des infidèles deviennent très tôt non charitables, hostiles, agressives et même facilement suffisantes et violentes. Ces derniers, sans trop s'en rendre compte, en bon sage et intelligent, sont quelque peu offusqués, sans trop le vouloir ou le dire ou s'en apercevoir, sont un peu offusqués de n'être pas au courant, de ne pas pouvoir tout bien saisir, pour ne pas dire avec une pointe d'humour, de n'avoir pas été consulté au préalable. Comment continuer à vivre son oui au Père et se bien comporter face à l'opposition que la mission du Père, maintenant proclamée, va inévitablement susciter en certains milieux d'Église? Eh bien, rappelons-le encore pour la ième fois, que tous, du moins à ce moment-ci, ne sont pas appelés à entendre parler de la mission du Père, à comprendre ce dont il s'agit, et encore moins à s'y engager. Et face à tous ces remous prévisibles, à ces critiques incontrôlées et souvent incontrôlables parfois, à l'écho de ces anathèmes ou de ces railleries, croyez-moi, et je le redis encore et encore, la seule recette consiste à rester calme, serein, à comprendre qu'ils et qu'elles ne comprennent pas, à pardonner au besoin, à refuser de monter dans l'arène des discussions et des polémiques. La mission du Père étant essentiellement une mission mystique, donc vécue à un niveau supérieur à celui de la raison, dans la foi personnelle inspirée, et une mission invisible, on n'a pas à la négocier avec les autres. Le tout se situe en notre intimité d'âme avec le Père, à qui nous avons à répondre maintenant en circuit fermé. Le Père tirera plus de gloire par nos ébats que par nos débats. J'ajouterais que face à nos attaquants, même les mieux intentionnés, car souvent ils et elles croient vouloir nous sauver, chercher notre bien, le mieux, c'est d'illustrer par notre comportement exemplaire sur les trois plans de la charité, de la vérité et de la liberté, l'essentiel du message du Père en sa mission, à savoir l'amour, la joie, la paix, et la miséricorde. On pourrait souligner ici rapidement, entre parenthèses, un paradoxe du temps de Moïse, comme on le lit dans la Bible et souvent au bréviaire. Les chefs spirituels étaient les premiers et parfois les seuls à bien comprendre le Seigneur, alors que le peuple, lui, au contraire, avait souvent la nuque raide et s'émancipait et se révoltait. Aujourd'hui, le peuple a de plus en plus faim et soif de Dieu, je dirais même plus que jamais, consciemment ou inconsciemment, et sa grande déception est souvent, hélas, à l'égard de ses chefs spirituels, qui ne lui semble pas au peuple éprouver cette même faim et soif et aussi prêt ou apte à comprendre le Seigneur. Consolons-nous, le Seigneur n'a jamais dit ou exigé que dans l'Église, les premiers à comprendre et à croire soient toujours les prêtres et les évêques. Bien entendu, ce serait l'idéal serait normal, mais il va sans dire que cela exigerait de leur part une vie de foi et de prière, une petitesse d'âme, une tête tombée dans le cœur. Alors, ils peuvent donc croire après plusieurs et même croire après tout le monde. Alors, passons au chapitre 4 et à la troisième partie de cet enseignement. Troisième partie intitulée « Instrument » au pluriel du Seigneur dans l'invisible. Chapitre 4, être instrument du Seigneur dans l'invisible, qu'est-ce à dire? Eh bien, ceux et celles parmi vous qui avez le document 1041, vous vous rappelez qu'au tout début, on fait un parallèle entre ce qui distingue être instrument du Seigneur dans le visible et instrument du Seigneur dans l'invisible. Et il est indiqué que le leitmotiv dans le visible, c'est « Écoutez bien mes désirs et faites-en votre agir » et le leitmotiv dans l'invisible, c'est « Donnez-moi vos désirs et moi j'en ferai mon agir ». Alors, quand on est instrument du Seigneur dans le visible, il est toujours très important, notre contribution est plus grande, parce qu'on a la responsabilité de l'agir après avoir reçu la lumière des désirs du Seigneur. Donc, il y a le discernement instrumental, il faut discerner entre ceux que le Seigneur envoie, ceux qui s'envoient eux-mêmes, ou ceux que Judoka le fourbe nous envoie pour nous faire perdre le temps. Il faut bien discerner le mandat instrumental, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous est demandé comme instrument, la durée de ce mandat, les qualités indispensables et les bienfaits. Mais nous en avons parlé dans bien d'autres enseignements. Dans le domaine de l'invisible, être instrument du Seigneur dans l'invisible, ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire trois choses. Qu'on doit se rendre docile et disponible pour être et devenir A, soit ministère invisible, B, soit missionnaire invisible, C, soit père et mère spirituel invisible. Une même personne peut être à la fois A, B ou C, ou et C, seulement l'un ou l'autre des trois, ou les trois à la fois. Une courte précision s'impose. Bien entendu, dans les ministères visibles, j'exprime également mon ou mes désirs à Dieu, et je compte bien qu'il en fera son agir. Quand je donne l'absolution, quand je baptise, je confirme, je prêche, dans tous les ministères visibles, c'est entendu, on présente notre désir implicite en exerçant ce ministère. L'ensemble des prières liturgiques approuvées ou recommandées par l'Église inclut l'expression de ce désir. Donc, sur ce point, ce n'est pas du tout nouveau. Ce qui est vraiment nouveau, c'est que le Père, à ce moment-ci de notre histoire, en ces derniers temps exceptionnels en cours dans le monde et l'Église, que le Père vient nous assurer clairement par la mission du Père, de la très grande efficacité de nos moindres ministères individuels, discrets et invisibles. Et qu'en outre, il vient nous combler en nous enseignant lui-même divers ministères invisibles auxquels il accorde des grâces incroyables, inconnues et insoupçonnées jusqu'à maintenant. Et qu'en plus de tout cela, le Père prend l'initiative d'octroyer aux personnes qui croient en sa mission et s'y consacrent pour vrai des dons, des privilèges, des charismes exceptionnels. Tout ça, c'est du vrai de vrai nouveau. il me revient ici une réflexion ou une exclamation du Père dans l'un de ses messages. Votre utilité dans la mission est de demeurer passif sous l'agir actif de Dieu votre Père. Alors, on voit là la distinction très claire entre ministère visible, où on ne reste pas passif, on est actif. C'est nous qui agissons selon les inspirations de ses désirs. Mais dans le ministère invisible, nous sommes pratiquement inactifs, apparemment inactifs. Nous lui communiquons notre désir et nous savons dans la foi qu'il est en train d'en faire son agir. Passons au chapitre 5. Être ministère invisible. Pour partir du bon pied, il faut d'abord apprendre à exercer des ministères invisibles. C'est la première étape. C'est celle qui nous permet, tous les jours, d'en exercer un minimum, selon des formules brèves, variées et variables, et continuer ainsi à faire ces exercices, à exercer ces ministères invisibles, à son gré, selon l'inspiration. Vient ensuite la deuxième étape. Lorsqu'on a appris à exercer les ministères, le Seigneur nous fait filer à une deuxième étape, celle où l'on devient soi-même ministère. Donc, devenir et être ministère invisible. Être capable, en toute occasion, tout au long du jour, selon les élans d'un cœur vraiment aimé, aimant et miséricordieux, selon les élans que nous inspire l'Esprit-Saint, pouvoir adresser au Père ses moindres désirs, au fur et à mesure, pour nos frères et sœurs, sans souci de formulation particulière. Alors là, ce n'est plus les ministères qu'on exerce, mais on est ministère, et il suffit de nous exclamer, on voit passer une ambulance, « Eh bien, Seigneur, je bénis, je te présente mon frère, reste avec lui. » Des exclamations comme ça. On voit quelqu'un qui est dans la pauvreté, quelqu'un qui est sur son lit, qui est agonisant, le simple regard est lui-même prière, parce qu'il devient désir. Et c'est saint Augustin, on le lisait dans le bréviaire où on va le lire ces jours-ci, le désir est une prière, dit saint Augustin. Et alors, ça devient à ce moment-là ministère invisible. Mais je précise rapidement que cette deuxième étape, qui est l'idéal, n'exclut nullement la première, bien au contraire. La seconde, comme on l'imagine bien, exige une très grande intimité, spontanéité avec le Seigneur, fruit d'un seul à seul continu. Alors, reprenons ces deux étapes. Arrêtons-nous d'abord à la première étape, la pratique ou l'exercice des ministères invisibles. Eh bien, parler de ministère invisible dans la mission du Père, ça exige de passer aux actes, si paradoxal que puisse sembler une telle affirmation. Ce n'est pas parce que son ou ses ministères sont invisibles aux autres qu'ils peuvent se limiter à de vagues bonnes intentions de ma part, à un simple bon vouloir général et universel. Il faut vraiment se donner la peine de poser des actes ministériels en présence de Dieu. c'est-à-dire de s'arrêter pour exprimer son désir précis dans les termes de son choix, avec un geste de bénédiction ou d'onction approprié. L'exercice des ministères est une chose bien distincte de l'état de prière universelle. Les deux se complètent, s'appellent l'un l'autre, mais ne se confondent pas. On pourrait établir un parallèle. Dans le domaine visible, on n'accepterait pas qu'un pasteur d'âme, curé, vicaire d'une paroisse, aumônier dans une communauté, se contente de prier pour tous les fidèles de sa paroisse, de son diocèse, de sa communauté, sans se donner la peine d'exercer certains ministères précis, comme par exemple la prédication, la célébration eucharistique, l'administration des sacrements, la visite aux malades, etc. Son état général de prière pour le peuple en son ensemble, qui lui est confié, c'est une chose. Mais l'exercice de certains ministères particuliers auprès d'individus ou de groupes précis est une autre chose. Eh bien, il en va de même dans la mission du Père. Penser au salut des âmes de toute la terre, avec le Père et comme le Père, vouloir constamment leur salut éternel, etc., est essentiel chez tous les missionnaires du Père. Avoir à cœur d'être toujours et partout des ambassadeurs d'amour et de miséricorde au nom du Père est une action louable et méritoire. Mais tout cela ne dispense pas le vrai de vrai disciple de la mission du Père de consacrer, à l'occasion de son temps, à exercer, à sa manière, à son rythme, dans ses formules personnelles, propres, des ministères dits invisibles précis. Et ce, dans toute la mesure du possible, donc bien équilibré, des inspirations que l'Esprit lui met au cœur et au fil des jours. Et quand on parle de ces ministères, on peut se référer, j'en ai longuement traité dans la deuxième série de cassettes, soit les ministères, les sept ministères que le Père lui-même s'est donné la peine de nous préciser, d'enseigner, les autres qui nous sont venus ensuite personnellement et que nous avons expliqués ou explicités dans cet enregistrement. Donc, il y en a là une vingtaine. Et ensuite, tous les autres ministères qui viennent à chacun au gré des inspirations de l'Esprit. Donc, je vous réfère, pour avoir des exemples précis, à la deuxième série de cassettes sur la mission du Père, cassette numéro PH3, 10 et 11. Passons maintenant à la deuxième étape, être ministère invisible. À ce moment-là, c'est tout son être qui devient alors ministère. Ce n'est plus une question de geste, de formulation, mais une question d'inspiration qui nous envahit, qui nous amène en toute occasion, tout au long du jour, au travail, en route, ou au repos, ou même dans ses moments de loisirs, selon les élans d'un cœur vraiment aimant et miséricordieux, sans cesse inspiré par l'Esprit, nous amène à adresser au Père nos moindres désirs pour nos frères et sœurs. Au fur et à mesure que ces désirs surgissent, sans souci d'une formulation particulière. Vous savez, il faut toujours donc bien distinguer entre l'aptitude à universaliser ses intentions de prière, de messe, etc. Et il y a des gens qui ne sont pas dans la mission du Père et font des prières universalisée. Il faut distinguer également l'état de prière continue assidue pour tous nos frères et sœurs du monde. Et il y a des gens qui ne sont pas dans la mission du Père et qui font des prières assidues continues pour tous les frères du monde. Quand on était jeune, on nous faisait prier pour les missionnaires, on nous faisait prier pour la conversion des petits Chinois, on nous faisait prier pour les malades et tout ça. Et on n'était pas, du moins consciemment, dans la mission du Père. Il y a des gens aujourd'hui qui ne se croient pas, ils ne savent même pas l'existence de la mission du Père et font assidûment de ces prières. Et distinguer ça également de l'exercice des ministères invisibles proprement dit, dont nous venons de parler à la première étape. Les trois sont distincts et complémentaires. Aucun ne doit se substituer à l'autre. C'est un peu comme en amour, il faut rester en état d'amour, ouvrir son cœur au plus grand nombre, mais poser des gestes concrets dans ses dires et son agir. Un apôtre et un disciple du Père doit devenir sans faute les trois. Mais la mission du Père va encore plus loin que ces trois états. Elle dépasse ce qui a été précisé plus tôt. C'est une mentalité, une vie nouvelle, dans laquelle, par exemple, on intensifie sa relation filiale avec le Père, on se remet continuellement à son service dans sa grande mission, on loue, on apprécie, on appuie, on encourage sa mission intensément en cours, notamment le fait qu'il nous envoie, Jésus à nouveau, l'Esprit-Saint précurseur, avec une puissance plus grande que jamais. On est attentif à tout ce qu'il veut nous dire et faire faire. Donc, en contact avec son, je dirais, son bureau de la main-d'œuvre et du plein emploi, qui est ouvert jour et nuit. Et on sait que le Père se cherche continuellement, à un moment donné, des témoins d'amour et de miséricorde divine infinie. De temps en temps, des missionnaires, proclamateurs et diffuseurs. De temps en temps, des prophètes qui expliquent son agir. Des interpellateurs qui rappellent, exhortent. Des accompagnateurs qui soutiennent, encouragent. Donc, en somme, des personnes appelées continuellement à dispenser, à déverser, à sa puissance sans précédent d'amour et de miséricorde, à être ministère continu. Alors, la question, suis-je ou non un véritable disciple ou apôtre de son amour et de sa miséricorde? C'est ça. J'oserais même dire qu'il y a par-delà cette deuxième étape, une troisième étape pour ceux et celles qui vivent vraiment les deux premières. La première, exercer des ministères invisibles, et la deuxième, être ministère invisible. On pourrait même parler d'une troisième étape. Pour ces personnes, le Seigneur leur réserve la surprise et la joie d'une troisième étape, celle où, dans l'invisible, à leur insu, présentement, éclate et s'exerce déjà une multitude de leurs charismes qui opèrent des merveilles à la grandeur du monde et dont ils ne sont pas encore eux-mêmes conscients. Mais ils vivent cette troisième étape s'ils ont déjà agréé de vivre très bien les deux premières. Des charismes reçus en cadeau, mais dont ils et elles n'ont pas encore eu l'occasion, dans le visible, de prendre connaissance et d'exercer. Alors, c'est tout un univers auquel nous n'avons pas été éduqués, mais auquel le Seigneur et Maman Marie se chargent de nous éduquer. Passons au chapitre 6. Être missionnaire invisible. La mission du Père, c'est la sienne, pas la nôtre, la sienne. Nous ne sommes que ses instruments. Nous devenons des collaborateurs dans sa grande mission. Nous sommes des missionnaires sans frontières, comme on dit aux fondations, et sans frontières et sans œillères. Devenir un oui ou des oui missionnaires, comme le rappelle sans cesse Maman Marie. C'est le Père qui nous envoie, où et quand il veut, soit pour enseigner, conseiller, conforter, soigner, traiter, dépanner, etc. On n'est pas missionnaire pour un tel ou une telle, les siens ou son milieu, mais missionnaire dans sa mission. Et c'est, C-E-S, puis un grand S-E-S, ses envois se font continuellement dans l'invisible, à la grandeur du monde, pendant qu'ici, visiblement, on est occupé à autre chose. Parfois, c'est plus que de la bilocation, c'est de la multilocation. Alors, on peut être missionnaire invisible de trois manières. Soit en état d'envoi, soit en état d'accueil, soit en état de rayonnement. En état d'envoi, missionnaire invisible en état d'envoi, c'est-à-dire qu'on est envoyé vers d'autres, dans l'invisible. Il peut s'agir d'une mission désirée de notre part et agréée par Dieu. Prenons un exemple, je désire visiter les prisonniers à travers le monde et aller leur apporter le réconfort et la bonne nouvelle. Et le Seigneur est d'accord, je suis envoyé en mission auprès des prisonniers. Ou c'est une mission réclamée par le Père, Jésus, l'Esprit ou Maman Marie. Il nous demande, il nous fait savoir qu'il désire que l'on s'occupe des mourants, que l'on prie particulièrement pour les chefs d'État, que l'on prie pour les gens qui sont sans emploi, en chômage. Bon. Et troisièmement, ça peut être une mission complètement à notre insu, voulue et assignée par Dieu. On ne le sait pas, mais on est présentement en mission, envoyé par lui, auprès de gens dans tel et tel pays. Et bon. Alors, une même personne peut vivre soit un type de mission, l'autre type de mission, ou tous ces trois types de missions. Mission que l'on propose soi-même, mission qui nous sont demandées, et mission qui nous sont confiées, mais à notre insu. On peut être missionnaire invisible, deuxièmement, en état d'accueil. Là, on n'est pas envoyé vers d'autres, mais d'autres sont envoyés vers nous. Accueil de tous ceux et celles que le Seigneur envoie vers nous, dans l'invisible, pour être éclairés, aidés et confortés. On les accueille. Nous devenons pour eux et elles, pour ainsi dire, des phares, des bouées de sauvetage, des routes, des ports de salut, des conseillers. On ne voit pas nécessairement ces personnes, mais on accueille, on est missionnaire et toujours en état d'accueil. Et dans l'invisible, si on avait la vision possible de ce qui se passe, on verrait des gens qui viennent chercher vers nous la lumière et les forces. Troisièmement, on peut être missionnaire invisible en état de rayonnement. Par la mission du Père, on a appris que, par un grand miracle de la grâce divine, il y a des gens, des multitudes, qui, à l'intérieur d'eux-mêmes, ont la grâce de voir, de nous voir, visiblement, de nous observer, de nous épier dans le bon sens du mot, de nous écouter, de voir nos comportements et nos réactions, et d'être par cela interpellé, édifié, entraîné, confirmé, éduqué et préparé à donner eux-mêmes leur oui. Des gens qui, pour diverses raisons, sont à 100 lieues de la vie spirituelle que nous vivons, mais se trouvent à venir à notre école par un privilège du Père dans sa très grande mission actuelle. Donc, ça dépasse notre entendement, c'est une grâce inimaginable, mais c'est comme ça que ça se passe. Quand je dis missionnaire sans frontières, ça veut dire sans frontières à l'intérieur de nous-mêmes, sans limites, sans conditions, sans restrictions, et sans frontières à l'extérieur, c'est-à-dire aucune limite ethnique, géographique, linguistique ou quoi que ce soit, ou même religieuse. Ce n'est pas limité aux gens de notre Église. Ça inclut toute l'humanité de nos frères et sœurs. Mais évidemment, pour être missionnaire sans frontières, est-il nécessaire de le dire, il faut être consacré à 100% à et aux œuvres du Seigneur et avoir une juste conception de ce que c'est qu'être instrument du Seigneur, avoir bien distingué entre activité et utilité de vie, croire qu'on peut être apparemment inactif et être très utile, et croire, bien entendu, à la mission du Père dans nos agirs et son agir. Passons maintenant au chapitre 7. Être père et mère spirituelle invisible. C'est-à-dire accueillir librement et consciemment que dans l'invisible et par grâce divine, des frères et des sœurs nous soient spirituellement greffés, soit par le sang, comme nos parents, nos ancêtres ou les descendants, soit par le cœur, c'est-à-dire greffé à notre demande et notre propre initiative, soit par la foi, c'est-à-dire à l'initiative et à la guise de notre bon Père du ciel. Et croire également, en plus de les accueillir, qu'en les portant fidèlement et attentivement, on devient vraiment père et mère nourriciers de leur croissance spirituelle, et que, par procuration, dans une foi vive, on peut même veiller à leur bien-être sur tous les plans. Mes frères, à ce moment-ci, je sens une motion intérieure à être auprès de vous, de nous, le porte-parole mandaté par tous ceux et celles qui sont présentement greffés à votre être, à chacun d'entre nous, dans l'invisible. greffés, comme je le viens de dire, soit par des liens du sang, du cœur, mon désir, ou de la foi, son désir. Nombreux sont ces, parmi ces greffés, nombreux sont ceux et celles qui, tout en appréciant actuellement d'être adoptés par nous, voudraient recevoir beaucoup plus et beaucoup mieux. Certains souffrent même de malnutrition, se sentent négligés, voire même oubliés parfois. Je viens aujourd'hui, en leur nom, vous et nous supplier de tout tenter pour répondre à leur faim et soif légitimes. C'est le temps là d'un examen de conscience et de confiance. Est-ce que je suis vraiment conscient qu'être missionnaire sans frontières, père et mère spirituelle de tous les greffés à mon être, équivaut à être une personne spirituellement enceinte, qui porte vraiment des frères et sœurs vivants, de la fécondation à l'accouchement spirituel. On sait fort bien que on serait déçu ou scandalisé si on avait connaissance qu'une mère ne semble pas se soucier pendant son état de grossesse, se surmène, se nourrit plus ou moins bien, néglige sa santé, abuse de ses forces. Or, par la grâce divine, nous portons des milliers et des millions de nos frères et sœurs, dont la vie et la croissance spirituelle dépendent énormément de notre attitude et de notre vitalité spirituelle. Même si une mère a donné son enfant au Seigneur et compte sur la nature, on sait qu'elle doit s'en occuper, lui parler, lui exprimer son amour. Eh bien, c'est la même chose face à ceux et celles qui nous sont greffés. Toute limite à la générosité venant de notre côté les prive. Et on sait fort bien que Dieu et Marie n'éprouvent aucun épuisement, aucune limite à nous nourrir, à nous de recourir à eux. Donc, la question finale de cet examen de conscience est celle-ci. Suis-je de ceux, de celles qui font tout le contraire de ce que Dieu attend de moi? Au lieu de m'occuper de ceux que je porte, je préfère attendre et porter ceux dont je m'occupe. Et c'est la grande distinction entre l'Église style 1 et style 2. L'Église 1 a fait de nous des bien portés. Seulement, l'Église 2 veut faire de nous des bien portants. Et on me fait signe que le temps est terminé.